Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, on ne dit qu'à ça.
Tom Chamala nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur l'animateur.
On vous écoute, Tom.
Oui, je voudrais intervenir par rapport à ce que l'invité est en train de dire, que le journaliste qui reçoit l'invité doit être suffisamment informé sur la matière qu'il traite. Si je me permets d'intervenir, parce que moi je suis à l'intérieur,
oui,
du territoire de Kazumba, bien oui, il semble que sur une des émissions qui passe à la télévision nationale, intitulée Saint Chantier, parce que dans mon village, il n'y a pas de télé, mais il semble que l'on fait passer des images de mon école, moi je suis préfet, et cette école serait réhabilitée. Et quand j'en parlais à certains amis, ils m'ont dit que non, non seulement ça, on fait passer les images de la route Kananga-Biza, qui serait aussi asphaltée. Alors par rapport à ça, quel peut être le comportement d'abord de celui qui est concerné et quand on s'aperçoit que ce n'est pas vrai?
Merci Tom. Christian Gabou nous appelle de Pandroma, dans la province orientale. Bonjour Christian.
Je dis ça, c'est mon bonjour.
On vous écoute.
Ma question se formule autour de ce que nous sommes dans un pays démocratique, tout le monde le sait. Bon, nous sommes en train de faire un constat, différentes chaînes de la télévision, même de la radio, sont monopolisées par des candidats fixes. Il n'y a pas la participation de tout le peuple congolais.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Notre invité.
Ok, merci. Polydor Mouboya.
Bon, il y a deux questions pratiquement. La première concerne une sorte d'escroquerie politique. On prend les images des actions posées par des particuliers, on les implique à un candidat. Non, mais là, je crois que c'est, vous savez, le journalisme, la loi sur la presse, autorise la personne lésée à faire un droit de réponse. Est-ce qu'il a fait un droit de réponse pour établir le fait et que ce droit de réponse n'a pas été diffusé? Nous aimerions être renseignés à ce sujet, parce que si le droit de réponse n'a pas été diffusé, là, ça pose un problème. S'il n'a pas fait le droit de réponse, alors là, c'est celui, quelque part, qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire.
Alors, comment doit-il introduire ses droits de réponse? Il doit écrire à la chaîne en question?
Il écrit à la chaîne en question.
Oui.
Là, c'est ça que dit la loi, il écrit à la chaîne en question. À l'époque, nous avions des conditions plus contraignantes pour les victimes, dans ce sens que le droit de réponse devait parvenir à l'organe dans les 48 heures. Bon, c'est délai n'existe plus dans la loi actuelle. Donc, même aujourd'hui, s'il saisissait l'organe en question, l'organe a le devoir d'enlever ces images-là. Autrement, ça devient un délit susceptible d'être attaqué devant les cours de tribunaux. Et ça, il n'y a aucun organe de presse qui est prêt à l'accepter. Donc, s'il fait ce geste-là, il se dirige vers le structure concernée, eh bien, nous pensons que ce travail-là pourra, ces corrections-là pourront être apportées, et que la vérité, la campagne elle-même, c'est pour cela justement, nous avons pour mission, et là je rejoins la seconde question, nous avons pour mission d'éclairer les électeurs.
Oui.
Éclairer les électeurs, c'est leur donner des éléments d'appréciation vrais sur les candidats, sur leur programme politique. Lorsque un candidat ment, dans période électorale, le journaliste a le devoir de signaler qu'il y a un candidat qui est en train de raconter des contre-vérités. Donc ça, c'est le devoir que nous avons.
Alors, Christian de Pandroma, dans la province orientale, signale que là-bas, les médias sont pris en otage. Il y a certains hommes politiques propriétaires qui ont le monopole, qui passent à longueur de journée et ne laissent pas le temps. On ne laisse pas le temps aux autres candidats de passer. Il n'y a pas un équilibre.
Oui, mais ça, c'est le vrai problème. C'est la question que j'ai eu à poser. En cette matière-là, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication qui devrait réagir. On ne peut pas avoir... Le média, il doit être ouvert. Évidemment, si le média appartient à un candidat, il est évident que le candidat a toujours un certain privilège sur les autres.
Oui.
Mais les médias ont l'obligation de donner à toutes les sensibilités, de faire entendre leur voix. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la démarche pour aller vers ces médias-là, diffuser leur message, et que les médias leur ont dit « Non, vous ne pouvez pas passer chez nous ». C'est à partir de ce moment-là qu'ils se posent un problème. Parce que s'ils vont vers les médias, ils disent « Nous avons un message à passer », et que les médias disent « Non, vous ne pouvez pas passer chez nous ». Là, c'est un délit. Ils saisissent le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication.
Oui.
Ils saisissent la commission de vigilance électorale des médias, hein, qui comprend aussi bien les membres du CESAC que des organes d'autorégulation.
Mm-hmm.
Eh bien, parce que ces commissions-là existent au plan national et au plan
provincial.
Donc, ils les saisissent pour leur signaler la situation qui se passe. C'est le média, en ce moment-là, qui risque d'être sanctionné.
Oui.
Donc, les gens ne doivent pas penser que les gens peuvent tout se permettre en cette période ici et qu'il n'existerait pas une loi qui sanctionnerait les dérives.
Oui. Raphaël Mouyembi nous appelle de Tikapa, dans la province du Kasaï occidental, et Marc Makwete est à Kinshasa. Raphaël, bonjour.
Bonjour, je vous dis bonjour, et bonjour les invités.
On vous écoute, Raphaël.
Bonjour.
Allez,
bon, je voudrais te poser une question à Polydor.
Oui.
Je voudrais demander si seulement la loi concernant les délits de la presse ne concerne que les radios n'ayant pas de couleur politique. Mais à ce qui concerne les radios de la majorité, là, tout peut se dire. Et puis, la deuxième question, je voudrais aussi lui demander si c'est le cas. Il ne fallait pas qu'il y ait quand même un conseil audiovisuel, parce que on suppose que ce conseil est régi par une loi que toutes les radios ou bien tous les médias doivent respecter. Mais malheureusement, cela n'est pas fait. Et ce qui veut dire que, pour moi, je trouve que c'est vraiment inutile que ce conseil existe.
Merci, Raphaël. Marc, à ma côté, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour. Bonjour, l'invité.
On vous écoute, Marc.
Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une préoccupation, parce que tout à l'heure, j'apprenais que c'était monsieur le président des jeunes qui devait passer. Apparemment, c'était notre invité qui est sur le plateau. Ma préoccupation était de savoir, parce qu'il y a quelques temps, monsieur Thuris, qui aurait dit qu'il est le président des jeunes, avait mené une grande sensibilisation pour la dépénalisation du délit de presse. C'est-à-dire, en d'autres termes, monsieur Thuris, voulait que les journalistes qui tiendront le propos, quel que soit la teneur, des propos diffamatoires, des propos susceptibles d'attenter à la sûreté de l'État, tenus par un journaliste, sans qu'on ne caractérise l'État de profession, que ces propos-là ne lui soient pas imputables pénalement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas poursuivis et sanctionnés pour cela.
Oui.
Alors, moi je demande si cette façon de faire était réellement une bonne manière de défendre l'intérêt de la profession des journalistes. Et c'est une bonne façon de les responsabiliser en tant que tels. Parce que j'imagine que la responsabilisation des journalistes doit tenir compte des normes aussi éthiques et déontologiques. Et est-ce que cette façon de faire était une manière de bien protéger l'éthique et la déontologie journalistique? Si, oui ou non, j'ai besoin de la réponse à ce sujet. Et j'ai suivi tout à l'heure un intervenant dire, en fait, il était un peu embarrassé face à la position des journalistes qui sont généralement employés dans des chaînes qui sont tenues par des hommes politiques.
Oui.
Et donc, ils sont un peu enfermés comme dans une espèce de carcan. Je me demande si le journaliste, même s'il est employé dans une chaîne qui est tenue par un homme politique, doit lui aussi être militant des partis politiques comme tout autre citoyen. Lui, je pense qu'il doit être comme église au milieu du village, qui est tenu de donner le message, l'information telle que l'opinion le perçoit, même si son employeur ou la chaîne qu'il emploie a des colorations, mais que lui essaie de faire en sorte qu'il soit le plus objectif possible dans l'analyse de l'information. D'autant plus que vous-même vous dites que les feux sont sacrés, mais le commentaire est libre. Mais il y en a qui vont au-delà de ce principe,
oui.
Donc ils donnent une coloration même aux feux, alors que les feux sont différents.
Merci Marc Makwete de Kinshasa, merci, bonne journée.
Merci.
Rigan Moutoassoa nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel.
Quelle est votre préoccupation, Rigan?
Oui, j'ai une préoccupation, je dis Daniel. Je voulais un peu revenir à un peu, je fais un pas en arrière.
Oui.
Il y a presque deux ou un mois, on a créé une commission de médias, ça s'appelle, c'est ça, quelque chose comme ça, oui.
Oui.
En fait, je veux prendre l'attention, ici au Katanga, cette commission n'existe pas. Toutes les chaînes ici, toutes les chaînes katangaises, on a déjà acheté. Parce que vous avez remarqué, hier, il y avait une émission, on a affiché une photo de candidat de l'opposition, on fait les ingénieurs sur lui. C'était les journalistes de cette chaîne privée. Vous voyez, je voulais un peu demander à l'invité, parce que là aussi, vous pouvez dire, bah, ce n'est pas dangereux ça. Ça va créer aussi de violence dans notre vie. C'est ça un peu ma préoccupation, je dis.
Merci. Apollidor Mbouyaï.
Bon, là, il y a toute une série de questions dont vous allez me rappeler, hein,
oui.
Après les autres.
Oui, Raphaël de Tikapa, en commençant par Raphaël de Tikapa, qui a déploré le fait que là-bas, il semble que toutes les radios, d'après lui, travaillent pour un camp, et puis les autres n'ont pas accès.
Non, mais là, c'est une violation de la loi, c'est une violation des droits de tous les candidats. C'est la question que je posais tout à l'heure. Hein. Je disais, est-ce que les gens, lorsqu'ils sont victimes de ce genre de situation, est-ce qu'ils le signalent au niveau... Parce que lorsque ils devraient pouvoir porter plainte au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ils devraient signaler ce type de situation aux instances d'autorégulation. C'est l'instance du journaliste, parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'a pas pour mission de sanctionner les journalistes. Donc, en ce moment-là, si la plainte ou les plaintes sont enregistrées de ce côté ici et que le CSAP ne réagissait pas, ça poserait un problème. Mais là, nous constatons tout simplement que les gens sont un peu défaitistes. Alors, ils constatent une situation sur le terrain, eh bien, ils restent au niveau du constat au lieu de chercher les voies et moyens d'obtenir des corrections. Les corrections, ils sont en mesure de les obtenir et de faire les formes nécessaires pour que les corrections soient apportées. Hein? Donc,
voilà.
La balle est dans leur camp,
oui.
Il faut qu'ils fassent cet effort-là. Les gens qui font ce travail-là n'ont pas la permission de le faire. Donc, ils savent très bien qu'ils sont sanctionnables, parce que si vous ne respectez pas le pluralisme d'opinion, les instances habilitées à veiller sur ce pluralisme vont frapper.
Bien, Marc de Kinshasa dit ceci, à un certain moment, il y avait un combat qui était mené pour la dépénalisation du délit de presse. Il pose la question de savoir, est-ce c'est une bonne manière de protéger l'éthique? Et puis, une deuxième question, il parle d'un journaliste qui travaille dans une chaîne à coloration, avec une certaine coloration. Doit-il devenir militant d'un parti jusqu'au point de colorer certains faits alors que les faits sont sacrés, les commentaires libres?
Oui, je suis très heureux de constater qu'il a la maîtrise de la règle cardinale de notre métier. Les faits sont effectivement sacrés. C'est pour ça qu'on demande à tout journaliste de procéder à la vérification, de croiser ses sources, etc. Mais la question qu'il soulève est une question d'importance. Hein? C'est la question de la dépénalisation
de presse.
Je crois que c'est une question qui est mal comprise par l'opinion. Et elle est aussi mal comprise par nos dirigeants. C'est pour cette raison-là que cette dépénalisation n'arrive toujours pas. Parce que les gens ne la comprennent pas assez. L'impression qui se dégage généralement des échanges que l'on a, et on le constate hein, avec cette intervention de Marc, qui pourtant semble être très au fait de nos réalités, eh bien, l'impression générale est que les gens s'imaginent que lorsque dépénaliser, c'est accorder simplement le pouvoir aux journalistes de faire n'importe quoi dans l'impunité générale. Ce n'est pas vrai.
Vous savez, dans ce pays ici, nous, au niveau des instances d'autorégulation, c'est pas seulement au niveau de ces instances-là, c'est au niveau de la corporation dans son ensemble, de chaque journaliste. Les arrestations telles qu'elles s'opèrent ici, ce sont des arrestations qui rendent un très mauvais service à notre métier. Parce qu'au lieu de nous aider à nous débarrasser des brebis galeuses, elle contribue au contraire à les maintenir non seulement dans la corporation, mais à transformer cette brebis galeuse en une sorte de vedette. Prenez un exemple. Et lorsqu'un journaliste est subitement ramassé, ramassé, jeté dans un cachot, et le même soir, il se retrouve à la prison centrale de Makala, s'agissant de Kinshasa par exemple. Mais vous savez, lorsqu'on se retrouve, ce type de cas est rapporté aux organisations de défense des droits des journalistes, de la liberté de la presse, etc. Mais la réaction immédiate est d'assurer la défense du journaliste. Non seulement d'assurer sa défense, mais d'assurer sa survie. Parce que tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays. On peut vous prendre. Et bien, vous êtes parti pour une destination inconnue, on ne vous retrouve plus. Et puis, bon, on a connu beaucoup de cas dans ce pays ici, les Franck Nguyen, les Bafoua Mwamba, notre ami de Nsemo qui avait été assassiné en 91. Il y a tous ces cas-là qu'on a déjà connus. Mais alors, la réaction est donc d'assurer la défense immédiate du journaliste. Et lorsqu'on se met à parler de ce journaliste-là et les organisations, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international, tout le monde se met à parler de lui. Et le monsieur devient une sorte de petite vedette. Alors que c'était peut-être un très mauvais journaliste, pour dire, et non journaliste tout court, quelqu'un qui devrait être évacué de la profession. Et lorsqu'on dit, allons vers la dépénalisation ne signifie pas l'impunité. Parce que la dépénalisation, le fait de ne pas aller en prison, est compensé par des sanctions pécuniaires très graves, des sanctions financières très graves.
Voilà.
Là, vous prenez un cas de quelqu'un qui diffuse des choses non vérifiées, et puis du jour au lendemain, l'organe est traîné en justice et est condamné à payer des sommes fortes. Mais vous connaissez tous, tout le monde connaît l'état dans lequel se trouvent les finances de nos médias.
Voilà, donc Polydor Mouboya, on retient que la dépénalisation n'est pas une sorte d'impunité. Il n'y a pas du tout. Mais les journalistes peuvent être sanctionnés autrement.
Non seulement les journalistes, ils sont sanctionnés, mais cette sanction peut être telle que le média ne va pas survivre.
Voilà. Rigan nous appelle de Lubumbashi, il dit là-bas, il a l'impression que le CESAC n'existe pas, et d'après lui, un journaliste est passé sur une télévision brandissant la photo d'un candidat de l'opposition et il proférait des injures à l'encontre de ces candidats-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Mais vous savez, nous assistons depuis bientôt une semaine là à une forte agitation dans les microcosmes politiques, à la suite de propos tenus sur une des chaînes de télévision ici. Mais je dois vous dire, il y a effectivement des choses très graves qui sont en train de se dérouler dans nos provinces. Et personne n'en parle ici. J'ai même l'impression que l'agitation qu'on a enregistrée ici est plus ou moins destinée à camoufler des réalités immondes qui se déroulent à l'intérieur de nos pays. Il y a des gens qui se sont spécialisés de nouveau dans des appels à la haine ethnique. Les appels à la haine ethnique, vous en connaissez la conséquence, c'est la mise en cause de la cohésion nationale, c'est la mise en cause de l'unité nationale. Donc on se retrouve de nouveau devant ces cas graves et nous constatons qu'il n'y a pas une réaction à elle. Parce que les gens qui se permettent ce type de dérive. Mais là, effectivement, ils se retrouvent en déphasage direct par rapport aux lois de la République.
Oui, Polydor, qui doit sanctionner à ce moment-là?
Si les propos d'un journaliste sont portés à la connaissance des instances d'autorégulation, les instances doivent immédiatement prendre leurs sanctions. Et s'agissant d'un journaliste qui se comporte tel qu'il le fait là,
oui.
C'est la commission de discipline de l'Union nationale de la presse du Congo qui doit lui retirer provisoirement ou définitivement le droit d'exercer le métier d'informé. S'agissant du média,
oui.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mmh. Il devrait s'assumer immédiatement. Parce que là, il s'agit de faits qui mettent en cause l'unité et la cohésion nationale. On ne peut pas, au nom d'une campagne électorale, se permettre une culture qui met en cause les cadres fondateurs de la République.
Oui. Olivier Mouboyaï, merci. Nous rappelons que vous êtes le président de l'Observatoire des médias congolais. On met en signe. Merci et à la prochaine.
Merci.